gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Comment pourrions-nous définir notre invité d'aujourd'hui? Au gré du temps, il est passé d'imitateur à ce qu'on pourrait qualifier d'humoriste éditorialiste ou de caricaturiste sonore par le regard quotidien qu'il a posé pendant 16 ans sur l'actualité au sein de l'équipe de l'émission radiophonique matinale de Radio-Canada. Et puis la télévision nous fera découvrir un grand acteur dans une série qui a marqué notre imaginaire, Les Lavigueurs, la vraie histoire. Il anime aussi une série documentaire portant sur les oiseaux. On peut donc dire qu'il a tracé sa voie avec plusieurs cordes à son arc, ou dans son cas, plus approprié peut-être de dire qu'il a plusieurs cordes vocales à sa voix. Bonjour Pierre Verville.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait vraiment plaisir.
Effectivement, une carrière époustouflante qui a commencé très jeune.
En fait, professionnellement, j'ai commencé à 8 ans à faire des imitations. Je ne sais pas jusqu'où on doit reculer, parce que mais j'ai commencé à 8 ans à faire des imitations. À 7 ans, en fait.
À l'école, donc?
À l'école, j'avais appris par cœur un disque de Pinocchio. En fait, c'était l'histoire de Pinocchio, mais sur disque. Donc, j'avais appris par cœur tous les personnages aussi. Non seulement le texte, mais les voix. Et j'étais en deuxième année, j'ai récité ça devant la classe. Et après ça, j'ai commencé à faire des imitations. J'imitais Yvon Deschamps, j'imitais Charlebois, tout ça. Et mon frère a eu en cadeau le disque des Cyniques. Et moi, là, en écoutant ça, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça pour vrai dans la vie, qui étaient imitateurs. Là, j'ai appris le disque, tout le contenu du disque, et j'ai fait des petits sketchs à l'école à la fin de ma quatrième année avec un ami d'enfance dont je vous parlerai plus tard, qui est mon collaborateur à l'émission, justement, Le Fou des oiseaux. C'est incroyable, mais c'est ça, il y a eu des recoupements parfois. Alors, donc, tout ça pour dire qu'un petit peu plus tard, secondaire 1, participé à un concours dans un théâtre à Victoriaville, entre deux films le samedi après-midi. Il faisait un concours d'imitation.
Et j'ai gagné. Théâtre Laurier, je crois.
Exactement. J'ai gagné ce concours. Ça me donnait 4 $. Alors... Mais un mois plus tard, j'ai rappelé le monsieur. J'ai dit, j'aimerais ça faire quelque chose. Il m'a dit, écoute, tu vas venir faire un numéro toutes les semaines.
Qu'est-ce qui vous fascinait? Est-ce que c'était de sentir la foule apprécier ce que vous faisiez ou le plaisir de découvrir de nouvelles voix ou la capacité de pouvoir faire des voix?
Il y avait plusieurs choses là-dedans. Il y avait les voix, ça c'est sûr. Premièrement, mon frère est trompettiste de jazz. À partir de l'âge de 3 mois, il a commencé à me faire écouter des disques, des duos en tierces. Et pour développer mes oreilles, et lui, il croyait que j'allais faire un musicien, et finalement, je suis devenu imitateur. Mais le son m'a toujours, donc, la musique, le son m'a toujours captivé. Alors, c'est d'abord le son, j'imagine, le fait aussi qu'il y ait des gens qui puissent faire rire aussi, parce que j'entendais, par exemple, les cyniques, ils font rire, et je vous laisse. Et moi, j'étais très timide.
Parce que ça peut être gratifiant, ça. Mais surtout si vous étiez timide.
Complètement timide, à un point tel qu'on a eu une réunion des gens de la petite école, la première, deuxième, troisième année, il n'y a pas longtemps. On a tous eu 50 ans en même temps, évidemment, et on s'est réunis. Et là, tout le monde me disait, oh, jamais on aurait cru que tu allais faire ça. Tu étais le petit gars timide au fond de la classe avec la camisole sortie avec une tache de spaghetti.
Mais c'est souvent la façon qu'on trouve pour combattre, pour faire partie du groupe.
Tout à fait, exactement. Pour se démarquer aussi un peu, j'étais complètement en arrière. Alors, avec ça, j'étais complètement en avant. Alors, ça m'a donné une chance dans la vie.
Et ça a continué.
Oui.
À partir de ce théâtre Laurier avec lui. Ensuite, il y a eu le festival Juste pour rire, qui est venu assez tôt quand même.
Il est venu assez tôt. Et juste auparavant, une petite anecdote. Justement, M. Carrier du cinéma Laurier m'avait appelé pour moi à Télémétropole. Et j'avais fait l'émission Papa, Jar Jar, j'avais 15 ans. Alors,
avec Réal Giguère.
Oui. Ok, Réal Giguère, un jeune imitateur qu'on accueille bien sûr, mesdames et messieurs. Alors, j'ai eu cette chance-là, donc, de faire de la télévision, des tournées grâce à lui. Et à 20 ans, là, est arrivé les Lundis des A. Et ça, ça a été le déclic total.
C'est avec Claude Meunier.
Avec Claude Meunier et quelques...
Serge Thériault.
Serge Thériault. Et tout, 2 mois après mon premier numéro, je retourne faire un autre numéro. On est en mai 83 et je fais un numéro qui casse la baraque. Yvon Deschamps vient dans la loge et il me dit « C'est fantastique. » En tout cas, j'étais bien heureux.
Mais auparavant, on peut dire qu'avec vous, ça a toujours été la fête. Le Big Bazar, pour vous, c'est une époque bien particulière.
Ah oui, c'est, j'ai toujours aimé Michel Fugain et le Big Bazar. Et je me souviens avoir répété... J'essayais d'imiter Michel Fugain avec évidemment le disque en sourdine et j'étais devant le miroir et « Tout va changer ce matin !» Et voilà, c'est la fête.
Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête. Le soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde mort et enterré a ressuscité, on peut respirer. C'est la fête, la fête.
Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied.
C'est la fête, la fête.
Le pain et le vin sont gratuits et les fleurs aussi.
C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée. C'est la fête.
Qui rigole et qui casse tout, qui n'ont plus peur du loup. Et l'eau, c'est vraiment de l'eau
que l'on peut pas autre des ruisseaux.
Les danser dans la rue, ce n'est plus défendu.
C'est la fête, la fête.
En vérité, je vous le dis, c'est le paradis,
c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté. Et la liberté, c'est la fête, la fête.
On pourrait même poursuivre la chanson. Mais ça, c'est une belle époque.
Ah oui.
C'est l'époque un peu fleur bleue aussi. Et au plan de votre travail, qui allait devenir presque gigantesque, vous ne pouviez pas imaginer que votre carrière prendrait autant d'ampleur.
Moi, j'ai toujours su que j'allais faire ça dans la vie.
Vraiment?
Ah oui, toujours. J'étais tout petit, comme je dis, 7-8 ans, et peut-être à 10 ans, où j'étais absolument sûr que j'allais faire ça.
Quand vous dites que vous aviez toujours ce sentiment de faire cela, est-ce que c'était de se retrouver sur les planches ou de faire des imitations?
Pour moi, je suis un imitateur. C'est mon premier métier. C'est vraiment mon métier. Je fais autre chose aussi, mais mon métier, c'est de... Mais c'est pas imitateur dans le sens de... Oui, des fois, je vais reproduire des voix le plus fidèlement possible, mais pour moi, ce qui est important, c'est de... Bon, il y a le texte, bien sûr, mais je veux dire, c'est de faire apparaître la personne.
Voilà.
Physiquement aussi. Donner un peu de magie à ça, finalement. Et évidemment, plus tard, quand j'avais 20 ans, peut-être pas, mais un peu plus tard, évidemment, les textes, et je me suis intéressé à la chose politique un peu plus
D'ailleurs,
tard.
Je disais dans la présentation, si vous avez bien entendu, je vous qualifiais d'humoriste éditorialiste parce que quand vous dites vous faire apparaître le personnage, il y a toujours une portée sociale dans les textes. Ce n'est pas de la performance d'imitation. Comme un peu Moreau faisait. Jean-Guy Moreau avait toujours une portée sociale à travers ses personnages. C'est ce que vous faites aussi.
Ben moi, Jean-Guy a une influence absolument incroyable sur moi. Tantôt, j'ai parlé des cyniques, mais tout de suite après, j'ai découvert Jean-Guy et vraiment, j'ai vu un spectacle de Jean-Guy. J'étais abasourdi. J'en revenais pas de voir tout ce qu'il faisait. Je l'ai rencontré après le spectacle. J'avais 14 ans et le lendemain, M. Carrier du Théâtre Laurier m'appelle et dit « Jean-Guy Moreau a laissé un décor pour toi ». Il y avait un vieux décor, il l'a laissé, il dit « ça, c'est pour l'imitateur ». Et ça a été pour moi une rencontre. C'était comme dire « OK, tu peux y aller ».
J'avais vu le dernier spectacle, je crois, de Moreau, qui était de la Bolduc à Céline ou quelque chose du genre.
Mon Dieu, il y en a fait plusieurs. Les derniers, je ne me souviens pas des titres des derniers shows, parce qu'il a fait toutes sortes de... Des fois, c'était des petits spectacles. Ah, le spectacle, le chum à Céline aussi. Ça, c'était pas son dernier, mais ça, c'était vraiment super intéressant.
Oui, mais oui, il traversait à peu près à travers les chants. Les chanteurs, les chansons québécoises, toute l'histoire du Québec, à travers les chansons qu'il avait choisies aussi, mais on voyait l'histoire du Québec à travers les chanteurs et les chanteuses qu'il interprétait, parce qu'il pouvait aussi imiter parfois des voix de femmes, même si, bon, ce n'était pas nécessairement son gagne-pain principal.
C'est normal, hein? Oui. On peut pas... Souvent, les gens disent « Est-ce que vous faites des femmes? » J'ai dit « J'en fais cinq. » Mais là-dessus, il y avait la poune, il y avait tous des personnages avec des voix très, très graves. Alors, mais il donnait l'illusion, par exemple, du personnage.
Tout à fait.
Et ça, c'était de la magie. Et moi, j'ai toujours voulu suivre ses traces sans suivre ses traces parce qu'il m'a vraiment dit « Fais ton propre style », mais il reste quand même qu'il m'a beaucoup influencé.
Alors, on a la tête en fait.
Voilà.
Quand je t'ai en tête, l'univers se change en fait. Quand je t'ai en tête, je vois venir le jour où les étoiles danseront sur des milliers de sons venus de tous les horizons pour vivre à l'unisson. Quand je t'ai en tête, mes chansons se changent en fêtes. Quand je t'ai en tête, j'entends des symphonies qui m'amènent dans des ailleurs, qui me font voir des couleurs. Oh, quand je t'ai en tête, ma vie se change en fait. tempête. Oh, quand je t'ai en tête, oh, quand je t'ai en tête, oh, quand je t'ai en tête.
Pourquoi cette chanson?
Parce que c'est Gilles Rivard, parce que c'est une chanson, parce que toute l'œuvre de Gilles Rivard, c'est des chansons légères, mais très ensoleillées. Et d'ailleurs, la musique en arrière est souvent extraordinaire.
Très influencée par le rythme brésilien. Ah,
vraiment, vraiment influencée. Il y avait les meilleurs musiciens en ville qui travaillaient pour lui. Les Jean-Marie Benoît, les Jimmy Tanaka, mon Dieu, il y avait des grands musiciens qui jouaient pour lui. Et même si c'était les jeunes arrière, c'était incroyable ce qu'ils jouaient. Il est parti trop vite.
Oui, et 25 ans après sa mort, ses chansons jouent encore.
Oui.
Il est décédé en 91, il avait 42 ans, faut-il le dire.
Qui est tellement jeune, c'est incroyable. Et puis je l'ai croisé à quelques reprises et il me disait qu'il est allé au Brésil et qu'il avait rencontré, je me souviens pas si c'est Hermeto Pasquale, en tout cas un grand Brésilien qui semble-t-il, avait endisqué une de ses chansons.
C'est vrai?
Oui, parce qu'il était lié d'amitié avec les Brésiliens. Lui, c'était le Brésil.
Si ma mémoire est bonne, c'est un peu la chanson qui l'a sauvé parce que, en sa jeunesse, c'était un jeune délinquant.
Oui.
Et la musique a été pour lui vraiment une bouée de sauvetage.
Ça peut sauver bien des gens, la musique. Hein? On parle souvent du sport. Il faut que vos jeunes fassent du sport parce que c'est très bon pour eux. Oui, je suis d'accord. Mais la musique aussi, les arts.
Le rire aussi.
Et voilà. Ben oui,
on a besoin des humoristes.
Oui, je pense qu'on... C'est surtout dans la société dans laquelle on vit présentement, c'est quelque chose. Là. On vit des. Surtout, je pense à l'Europe, surtout, parce qu'ils sont vraiment affectés par tous les événements, mais il reste quand même qu'on en subit les contre-coups, puis on sent qu'on est dans une ère assez particulière. Alors, ça nous prend beaucoup de sérénité et beaucoup d'humour.
Ce qui est fascinant quand on parle à Pierre Verville et quand on pense à Pierre Verville, ce sont les deux pôles qui représentent Pierre Verville, c'est-à-dire l'humoriste, mais l'humoriste à portée sociale, et aussi, on pense aux comédiens. Ce qu'on va entendre, vous nous avez proposé « Dimanche à Orly » de Bécaud.
Oui.
C'est une chanson qui est légère, qui est une belle histoire d'amour, qui est triste quand même aussi.
C'est pour Bécaud que j'ai fait ça, j'adore Bécaud.
Mais on va enchaîner avec Brel. Vous savez que Brel a fait référence à cette chanson.
Tout à fait.
Et là, on tombe dans le côté très sérieux. Ça, c'est le côté peut-être acteur de Verville. Et on pourra en parler peut-être après la pause. Mais c'est un beau choix. Dimanche à Orly, ça évoque un souvenir particulier ou c'est Bécaud pour Bécaud?
Ah, c'est chez nous. C'est dans le salon. Je mettais ce disque-là. Je l'écoutais. Mes sœurs qui jouaient du piano, qui jouaient du Bécaud. Nous, notre famille, on est 7 enfants et tout le monde faisait de la musique. C'est chez nous. En fait, c'est Arthabasca, mon petit chez nous.
À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum. Un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement, pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi, j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi, y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée, À 7h moins 5 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien, et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point.
Départ à destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat. Porte numéro 37. Départ à destination de New York et Houston. Vol Air France 007.
Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux.
Porte numéro
4. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime. Elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant ils pleurent, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais « il ». Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux, et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu, ils bavent quelques mots, agitent une vague main, et brusquement il fuit sans se retourner. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. Et elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne, et se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même,
et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile, elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit.